Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Cantot-Sperber. Liberté de réunion, liberté d'expression, au nom de quoi les limiter ? Le cas Dieudonné ? Mais pris sous l'angle du conflit de valeurs avec Alain Gérard Slama. Dans les premiers jours de janvier 2014, le Conseil d'État a invalidé un jugement du tribunal administratif considérant que l'interdiction d'une réunion, en l'occurrence une réunion de Dieudonné, auteur et comédien comique bien connu en France, dans lesquels il était susceptible d'être tenu des propos antisémites, était annulé. Le tribunal administratif a contesté cette décision et le Conseil d'État a contesté la décision du tribunal administratif et donc a validé l'interdiction. Quels sont les problèmes philosophiques, sociaux, politiques, la compréhension du pacte de défense de la liberté qui est à l'origine des sociétés libérales et démocratiques qui sont suscités par cette décision. Alain Gérard Slama, merci infiniment d'avoir répondu si positivement et si généreusement à notre invitation. Vous êtes spécialiste de philosophie politique et très fin analyste des sociétés contemporaines et de leurs valeurs. La plupart des commentateurs qui se sont penchés sur cette décision, que ce soit pour la critiquer ou pour la justifier, ont insisté sur le statut particulier de la tolérance. Certains ont dit la tolérance doit être limitée, il faut mettre des barrières, et donc ça c'est un cas particulièrement caractéristique où elle devait être limitée. Les autres, au contraire, faisaient de la tolérance une valeur absolue. Alors, la tolérance doit-elle être limitée, oui ou non, et dans quel cas de force majeure ?
Bah, écoutez, nous avons, je me rappelle une phrase de Milan Kundera disant cet Hitler après lequel le bien et le mal sont devenus tellement relatifs. Il est évident que ce qui s'est passé, je dirais, au XXe siècle, pas seulement avec la Seconde Guerre mondiale, mais déjà dès la Première, a été une secousse extraordinairement forte devant laquelle les démocraties se sont trouvées fondamentalement ébranlées. Elles se sont trouvées fondamentalement ébranlées parce qu'on a bien vu qu'une des conséquences de la Première Guerre mondiale a été la renaissance des nationalismes. Avec ce que cela implique, évidemment, d'intolérance et de tentation pour l'État de s'emparer du même coup du sujet de la tolérance pour lui-même tenter une conception de la tolérance qui tendait à dériver vers une morale d'État. Et c'est surtout ce qui s'est passé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il était absolument naturel que l'on intervînt de façon radicale et remît en question même des notions comme celle de la prescription, qui sont des garanties des droits de l'homme et en même temps des conditions même de la tolérance qui permettent la réinsertion d'un individu. Mais que cette garantie ait été remise en question s'agissant d'un crime aussi monstrueux et aussi indéfinissable dans les catégories, disons, de la morale classique que n'avait été effectivement l'extermination d'un peuple pour raison d'être né. Donc, il y a là un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer des dérives. À cela, j'ajouterai à date plus récente, effectivement, que l'émiettement des la fracturation de la société républicaine, de la République française, attachée à son unité, attachée à ses principes universels, a conduit deux types de comportements. L'un qui a été, au fond, une conception très arrêtée, très brutale, je n'y ai pas échappé, de la notion de laïcité. Et puis, d'un autre côté, une conception, au contraire, qui survalorisait les revendications identitaires et communautaires. Et on en est là encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas résolu ce conflit. Et si vous me permettez d'aller jusqu'au bout du raisonnement, puisque vous avez évoqué l'affaire Dieudonné, je ne crois pas que la principale cible des pouvoirs publics doivent être la lutte contre le seul antisémitisme. C'est la lutte d'une manière générale contre ce phénomène qui est l'identitarisme, c'est-à-dire faire droit à des revendications portées par des minorités extrêmement actives, extrêmement motivées, et on peut le comprendre, se revendiquant pour la plupart de la mémoire et de l'histoire, hein, Pierre Nora a fort bien décrit ce phénomène, et qui aujourd'hui font pression sur les pouvoirs publics avec la tentation qui vient d'être manifesté par le jugement du Conseil d'État que vous venez d'évoquer, l'arrêt du Conseil d'État que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire, effectivement, faire droit à des revendications de ce type.
Alors, restons-en là sur la question du cas qui nous occupe, et en particulier des libertés et des valeurs qui semblent être remises en cause, en tout cas insérées dans une problématique plus complexe. Vous avez parlé de dérives. Ces dérives, ce sont des dérives qui s'expriment par des limites apportées à des libertés considérées comme fondamentales, qui sont des droits attachés aux êtres humains, et des générations pendant des siècles entiers se sont battues pour les faire valoir. La liberté d'expression, la liberté de réunion, d'association. Donc là, on a des valeurs fortes des sociétés qui sont les nôtres. Et lorsqu'on parle de tolérance, bien sûr, on évoque ces valeurs. C'est précisément parce que la liberté d'expression a une valeur intrinsèque que la tolérance est une vertu. On a tendance à penser, mais si la tolérance est une vertu, c'est précisément à l'égard des opinions qu'on n'aime pas, qu'on ne supporte pas, qu'on juge même abjectes, insupportable, inadmissible. Parce que s'il s'agissait d'être tolérant à l'égard des valeurs et des opinions qu'on aime bien, est-ce que la tolérance serait une vertu ? Alors, où poser le curseur quand on définit les choses de manière aussi générale ?
C'est là, vous voyez bien que l'exemple que j'ai cité, évidemment, du Rambert, la solution finale, etc., est absolument déterminant. C'est-à-dire que là, on voit très très bien qu'à partir du moment où on touche à quelque chose qui est la négation absolue des règles universelles, on ne peut se défendre qu'en affirmant ces principes universels avec le recours du droit.
Mais ça ne peut être... Ce qu'a fait le tribunal de Nuremberg, qui a quand même fixé le code normatif sur lequel a été construit l'après-guerre. Et c'est exactement la justification de la loi Guesso, qui a été la première loi forte de limitation de la liberté d'expression, puisqu'elle a pénalisé l'expression de l'antisémitisme et de la négation de la Shoah.
Et vous savez très bien que cette loi Guesso a été fortement critiquée, justement. Évidemment, fixer des limites comme ça, de manière générale et absolue, ça serait la négation même du problème que nous nous posons. Mais, en revanche, il y a une réponse, qui est la réponse procédurale. Je veux dire par là que il faut répartir, en effet, les attributions et les fonctions, entre les fonctions de l'État d'un côté, de l'administration qui sont bras séculiers, et puis d'un autre côté, de la justice, qui en principe est indépendante. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est une autorité en France. C'est d'ailleurs un vrai problème. Nous payons peut-être aujourd'hui le fait que de la défaillance de notre justice, de son prestige peut-être pas assez grand pour prendre en main de façon crédible et fiable de la part des juges des appréciations et des jugements ne reposant pas sur des critères généraux et absolus. Il y a forcément une jurisprudence, il y a nécessairement une jurisprudence, mais il ne faut surtout pas que l'État s'y engage au risque un, de proposer une morale d'État, et deux, et ça aussi c'est extrêmement important, de tomber dans le piège qui est le piège classiquement tendu par tous les discours extrémistes dans notre pays, c'est-à-dire celui qui consiste à aller à l'encontre de nos principes au prétexte de les défendre.
Alors, c'est pas de tolérance pour les ennemis de la tolérance.
Voilà,
on connaît bien
ça,
cette formule.
Et on arrive à ça.
Bon,
oui.
Alors, nos sociétés contemporaines sont réputées comme très tolérantes en matière de mœurs, de religion. Enfin, plus rien n'est sacré. Enfin, c'est une plainte que certains ne se lassent pas de prononcer. Mais pourtant, on n'a jamais vu une telle efflorescence, effervescence même, d'actions de toutes sortes qui visent à limiter la capacité de parler de certains sujets. Donc comment expliquer ce paradoxe de sociétés qu'on vende comme étant très tolérantes et qui cherchent de tous côtés à quadriller les propos. Est-ce que c'est là une manifestation de ce que vous avez qualifié comme une tendance à l'identitarisme,
oui,
qui produit des nouveaux sacrés, mais des nouveaux espaces de sacrés, alors ?
Disons déjà que ça part de la loi Guesso. C'est-à-dire que la possibilité de tenir un discours négationniste devrait être déterminée tout simplement par la sanction des universités, des laboratoires, des sociétés savantes, de tout ce que vous voudrez, des intellectuels, etc. C'est de l'ordre, un, de la persuasion, et deux, de l'autorité académique, en quelque sorte.
Parce que c'est une erreur.
Voilà.
Avant toute chose, c'est une erreur et une grosse bêtise.
Voilà, exactement. Cela peut éventuellement tomber sous le coup de la justice. Ça a été ainsi qu'avait été plaidée, d'ailleurs, la fameuse affaire sur le génocide des Arméniens, où un grand universitaire américain s'est trouvé, d'ailleurs il ne veut plus venir en France pour cette raison-là, s'est trouvé condamné pour, à la suite du plaidoirie habile, disant « vous avez invoqué l'autorité scientifique, par conséquent vous avez donc commis une espèce d'abus de confiance ». Bon, on voit très très bien que là on a des dérives en effet, et des dérives qui sont déterminées à l'abri d'une loi, et ça c'est grave. C'est là le véritable problème. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que, d'autre part, ce droit prend en charge des revendications identitaires. Nous voyons bien comment nos sociétés explosent. Elles explosent parce que les règles de droit cherchent de plus en plus à construire une société arbitraire, qui n'existe pas, et qui est une société sans conflit, totalement transparente, et dans laquelle personne ne dirait rien qui soit de nature à contrarier l'autre. Et lorsque cet autre est abrité derrière une association qui peut prendre sa défense, qui peut s'emparer de cette défense devant les tribunaux, car nous avons aujourd'hui dans notre droit ce phénomène assez nouveau, qui est que les associations peuvent se porter partie civile. Nous voyons bien l'énorme pression sociale qui fait que le juge va trancher en faveur, ou en tout cas en fonction, ce qui est déjà beaucoup, en fonction de revendications sociales qui ne correspondent plus du tout à ce que pourrait être une société de tolérance.
Alors, revenons à la défense de la liberté individuelle et dans ces deux expressions fondamentales qui sont la liberté d'expression et la liberté de réunion. Et j'insiste que ces libertés ont une valeur particulière quand elles servent à exprimer des opinions épouvantables, parce que sinon il n'y a aucun mérite à les protéger. La liberté est la règle. D'ailleurs, le premier amendement, par exemple, aux États-Unis, était extrêmement fort. L'interdiction est l'exception absolue. Elle doit se justifier, elle doit véritablement mettre en avant son caractère totalement exceptionnel. Avec l'affaire de Denis, on a eu, maintenant nous braquons l'objectif, si je peux dire, sur ce cas plus particulier, cet artiste comique qui présente un spectacle dans lequel il y a manifestement des propos antisémites, il n'y a aucun doute là-dessus, puisqu'on voit toutes sortes de mises en scène qui visent à complètement critiquer, d'abord à s'attaquer directement aux Juifs, et qui critiquent également la vérité historique de la Shoah. Le ministre de l'Intérieur rédige une circulaire à laquelle on ne peut rien reprocher, c'est son droit, adressant une recommandation au maire et au préfet, donnant un formulaire d'arrêté d'interdiction et rappelant que l'antisémitisme est un délit puni par la loi. En effet, on ne peut pas, depuis la loi Guesso, tenir des propos antisémites, et puis la liberté d'expression est déjà très limitée en France. Il y a de nombreux propos qui ont été progressivement pénalisés. Les maires prennent l'arrêt d'interdiction, les maires dans lesquels devait se produire cet humoriste. Évidemment, contestation est portée auprès du tribunal administratif. Alors, que fait le tribunal administratif à ce moment-là ? Il applique la jurisprudence de protéger la liberté.
Alors, la jurisprudence qu'il a appliquée repose, d'ailleurs, c'est la thèse, évidemment, du vice-président, enfin, qui est le président de facto du Conseil d'État, qui est Marc Sauvé, c'est-à-dire, c'est la jurisprudence, effectivement, de l'arrêt Benjamin au début des années 30, où le Conseil d'État avait tranché, non pas du tout, d'ailleurs, pour condamner, en l'occurrence, une réunion qui devait avoir lieu et qui était tenue par un homme relativement inoffensif qui était René Benjamin, de l'Académie Goncourt, auteur d'ouvrages pétainistes pendant la guerre, mais qui était adorateur du maréchal Pétain, sur un ton évidemment avec un zèle d'une naïveté absolument effrayante, et c'était pas vraiment un esprit affluent de quelque façon que ce fût. Et en plus, il faisait une conférence sur Pagnol. Vous voyez à peu près le truc. Bon. Mais enfin, le Conseil d'État, devant l'interdiction par le maire, avait tranché que le maire devait avoir les moyens d'assurer l'ordre et que s'il avait les moyens d'assurer l'ordre, en l'occurrence, il s'agissait d'une affaire vénielle, eh bien, il n'y avait absolument pas lieu à interdire.
D'ailleurs, la seule raison qui aurait pu être légitime, c'est le trouble majeur à l'ordre public d'une ampleur exceptionnelle. Or, rien ne semblait le fonder. Et depuis, très peu de choses ont été interdites.
Mais bien sûr, parce que le trouble
majeur... En matière
majeur,
de liberté de réunion.
Le trouble majeur à l'ordre public, effectivement, dès lors que le pouvoir républicain ne va pas accepter de reconnaître sa faiblesse, c'est qu'il a les moyens d'assurer cet ordre par lui-même, il n'y a pas lieu que le juge intervienne et vole à son secours. D'autre part, quand même, rappelons, parce qu'on ne dit pas assez, vous l'avez dit beaucoup, et j'y insiste, la liberté d'expression est constitutive de la dignité humaine.
Et donc le Conseil d'État a récusé, est revenu sur la jurisprudence, mais au nom de quelle considération tout à fait exceptionnelle.
Il a évoqué
c'est la seule
un autre arrêt qui a une vingtaine d'années maintenant à peu près, qui est le fameux arrêt du lancer du nain, arrêt donc d'une commune qui avait un divertissement assez bizarre, consistant donner un prix à celui qui lancerait le plus loin, un malheureux nain qui était volontaire d'ailleurs pour se prêter à cette facétie. Alors, cet arrêt protégé en quelque sorte la dignité des personnes contre elles-mêmes, et même si le nain était d'accord, on revient à la phrase de Molière, « Et s'il me plaît à moi d'être battu », eh bien non, la dignité des femmes est en cause, ou la dignité du nain est en cause, et la justice intervient pour défendre cette dignité. Cet arrêt, donc, a servi au Conseil d'État pour invoquer donc, la notion de dignité de la personne humaine mise en cause par, les attaques abjectes de Dieudonné, surtout comportant d'ailleurs une dimension dans certains de ses sketchs, on l'a oublié, qui était carrément négationniste.
Absolument. Mais Toto demande, mais c'est quoi les chambres à gaz ? Comment on sait qu'elles ont existé ?
Voilà, bon.
C'est ça, et le donc, spectacle de Dieudonné, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Bon,
Et avec des personnes habillées en déportées, mais déguisées, dirait-on.
Voilà. Et un public qui rit grâce. Et un public qui rit grâce sans mesurer les conséquences de la chose. Donc, il faut protéger les gens contre eux-mêmes. Voyez cette idée. Mais jusqu'où peut-on aller dans la protection des gens contre eux-mêmes ? Est-ce que le propre de la dignité humaine n'est pas justement d'avoir une conscience et d'être considéré comme capable d'assumer les conséquences et la responsabilité qui résulte de ses choix et de ses opinions et de ses idées, donc devant le pouvoir judiciaire, donc a posteriori et pas a priori. On ne va pas vous soupçonner a priori de ne pas être capable d'affirmer votre dignité. Donc, si vous voulez, le Conseil d'État fait là une double rupture. D'un côté, il dit l'ordre, c'est... vous pouvez peut-être pas être assuré, et deux, l'ordre public inclut le devoir de faire respecter la dignité de la personne humaine, car les conséquences peuvent être effectivement désastreuses.
Alors,
donc,
il y a
une dimension matérielle et une dimension spirituelle.
Là, il est vrai que l'ordre public, la notion d'ordre public, comporte aussi une dimension immatérielle. C'est comme ça qu'est justifiée la non-instrumentalisation ou la non-commercialisation des parties du corps humain.
Bon, par exemple,
on a pas le droit de vendre son foie.
Je reconnais là l'ancienne vice-présidente du conseil
d'ordre public, parce que là, c'est l'intégrité même de la personne humaine dans une dimension physique qui serait désintégrée. Les considérations de maintien de l'ordre public au sens matériel du terme étaient-elles sérieuses ? La seule chose qui aurait pu être doutée, c'est une gigantesque contre-manifestation qui aurait provoqué une bataille de rue impossible à contrôler. On avait d'ailleurs parfois l'impression que la circulaire appelait à cela. Enfin, bon. Mais par ailleurs, pour eux, l'aspect immatériel, alors. Maintenant que ce genre de choses, c'est de tenir des propos, enfin condamner par avance des propos antisémites avant qu'ils soient tenus, au nom de la dignité humaine, mais où s'arrête-t-on ? À quand la condamnation des pratiques sadomasochistes ? À quoi la condamnation de certaines pratiques de prostitution ?
Oui, on a un arrêt d'ailleurs célèbre qui est de la Cour de cassation qui a arrêté les pratiques sadomasochistes au caractère insupportable affirmé par la personne qui s'offrait en victime dans une évidemment séquence un petit peu scabreuse et à partir du moment où elle ne tolérait plus la douleur. Alors ce seuil a permis d'avoir le fameux arrêt sadomasochiste de sadomaso de la Cour de cassation. Donc, vous voyez très bien que le fondement même de l'appréciation par le juge est lié à l'appréciation d'une situation. Alors, fort bien quand il s'agit effectivement de l'histoire de sadomasochisme, de lancer de nains, beaucoup plus difficile quand il s'agit d'apprécier des situations comme celle des conséquences des sketchs de Monsieur Dieudonné. C'est lui accorder aussi une importance considérable. Voyez.
Alors là, vous touchez une question fondamentale. Il y a le principe et il y a les conséquences. Pour le principe, on peut dire qu'il est toujours mauvais de limiter la liberté d'expression parce qu'il y aura des effets, ça le rendra populaire, etc. Mais d'un autre côté, il y a vraiment aussi, et c'est cette question que nous devons approfondir, des attaques personnelles, des attaques extrêmement violentes contre des individus qui ne peuvent pas être tolérées.
Qui ressemblent à un appel au meurtre même.
Qui ressemblent à un appel au meurtre. D'ailleurs, parfois, elles ont des conséquences concrètes. Donc ça, la justice, au vu du dispositif législatif qui existe, est légitime à intervenir, à
bien
sanctionner
sûr,
lourdement
sûr,
et à exiger l'exécution de la peine. Parce que M. Dieudonné a plusieurs fois été condamné pour propos antisémites.
Oui, et puis par ailleurs, on n'a pas trouvé les moyens de lui faire payer ses condamnations, car il était quand même condamné à payer des sommes relativement importantes et il est arrivé à les escamoter en se rendant insolvable. Donc il est évident que la justice a les moyens. Elle a les moyens d'empêcher cela.
Alors,
elle a le moyen de le poursuivre. Elle a peut-être les moyens, éventuellement. Moi, ça ne me choquerait pas du tout de le mettre en prison.
Et pourquoi pas les moyens en envoyant des personnes qui immédiatement font intervenir un juge, ont une possibilité de flagrant délit dès qu'il tient un propos antisémite
oui,
sur scène.
Oui, bien sûr.
Devant
oui.
des gens qui sont consentants, puisqu'ils ont payé. C'est un spectacle. Ce n'est pas du tout comme nous exposer des choses impossibles à voir et extrêmement désagréables auxquelles on ne peut pas échapper parce qu'elles sont exposées oui. dans la rue. Il suffit de passer pour les voir sans l'avoir spécialement voulu. Là, ce sont des personnes qui ont payé pour ça, d'une
oui.
certaine manière.
Ce dont nous faisons le tour, là, en ce moment, c'est d'un ensemble de circonstances qui conduisent à des dérives du droit. C'est ça, le vrai problème, et à des dérives de la procédure.
Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est des sanctions encore plus lourdes, puisque l'antisémitisme, étant donné cette référence à la loi Guesso, a un statut particulier, des sanctions pénales extrêmement lourdes, qui soient tout à fait dissuasives, mais qui soit instruite par les juges.
Bien sûr, oui. Il ne faut peut-être pas... Bon, attention à la position du curseur, mais c'est une de mes thèses les plus anciennes. Je crois d'ailleurs que je l'ai développée dans un moment où personne ne voyait ce que ça pouvait signifier. On met trop le paquet sur la prévention, et en particulier sur une prévention qui devient une sanction, et pas assez sur la sanction. Donc, il est évident, à mon sens, qu'il faut déplacer le curseur des mesures préventives qui déresponsabilisent les individus, qui supposent que la liberté, finalement, doit ne pas être coûteuse pour quiconque. Or, la liberté a un coût. Elle a un coût à tous égards. Elle comporte des conflits. Elle comporte, en effet, le désagrément immense de devoir entendre des propos intolérables.
Oui, mais avoir le droit de les dire.
Voilà,
de les dire,
bon. En revanche, la sanction qui intervient après, le droit était plutôt bien fait. Les principes du droit étaient plutôt bons. Et la sanction qui intervient après, elle, bien entendu, peut être alourdie. Moi, ce qui me gêne, c'est que nous sommes passés à cette espèce d'accent mis sur les mesures préventives de façon à aseptiser en quelque sorte la société parce que l'État a trop pris en charge la morale. Nous savons bien que entre la morale et le droit, il y a une distinction. La morale est autonome. Elle n'a de sanction que dans la voie de votre conscience, chère Monique. Et le droit est hétéronome. Il reçoit sa force de l'État vis-à-vis de l'action, via l'action en justice. Ce sont des principes fondamentaux.
Mais qu'en est alors un argument qui peut être plaidé pour justifier l'interdiction de ce type et de souligner que ça peut avoir un effet. Les mots ont un effet, ils ne sont pas simplement l'expression d'opinion qui ensuite se dissolve dans les airs. Ils peuvent être situés dans une chaîne causale comme ayant amené un certain nombre de comportements. Donc pour finir, des personnes souffrent. Est-ce que ça pourrait être un argument qui pourrait justifier une limite à la liberté d'expression, ça ?
C'est l'argument qui en effet sert le plus souvent, bien entendu, mais encore une fois, ça doit être apprécié cas par cas, ça ne peut pas faire l'objet d'une règle générale et absolue. Vous savez, Jean Carbonnier disait deux choses, qui était l'un des grands maîtres des études juridiques françaises. Il disait d'un côté que la morale, intervenant dans le droit, est encore moins sûre que le droit lui-même. Et il disait d'autres choses, c'est que dans nos sociétés, l'état de droit est évidemment un progrès par rapport aux situations antérieures. Mais il disait que la tentation est grande pour l'état de jouer avec le droit.
Alors, on m'a dit que peu de jours avant Noël, un groupe de fémaines se sont introduites en pleine messe, se sont précipitées sur l'autel. On dit « Abba Noël », on mimait un avortement, elles étaient à moitié nues. En jouant avec des bouts de viande dans les positions les plus équivoques. On peut imaginer que beaucoup de... Bon, c'est passé totalement inaperçu, il n'y a aucune espèce de condamnation d'aucune sorte.
Oui, non, là, il s'agit quand même d'une agression, d'une intrusion caractérisée dans un espace privé, d'une provocation, d'une atteinte. Non, pas alors. Si on l'attaque pour atteinte aux bonnes mœurs, évidemment, on retombe. Vous savez que le point de départ, d'ailleurs, de l'intrusion de la morale dans le droit est venu du doyen Ripert. C'était en 1926, lequel doyen Ripert a été, je crois, secrétaire d'État sous Vichy. On a là, évidemment, une tradition, une famille de pensée. C'est cette famille de pensée que, bien entendu, nos fémaines cherchent à provoquer. Mais on peut les condamner au simple titre, non pas de l'attentat aux mœurs, parce qu'aujourd'hui, évidemment, ça serait presque perçu comme ridicule. Ce n'est pas non plus comme attentat à la foi ou atteinte à la dignité de l'Église, mais ça peut être simplement, un trouble à l'ordre public, une gêne, une nuisance. Enfin, il y a quand même mille moyens dont le juge dispose, mais ça doit être le juge et non pas en application.
Le juge est le cas particulier, le cas singulier qui se trouve examiné.
Voilà, exactement.
Mais alors, dans son ouvrage fameux, que tous les libéraux considèrent comme un des contributions les plus fortes à ce qu'est la gestion des libertés modernes, John Stuart Mill, dans On Liberty, insiste sur le rôle cathartique qui est lié à la liberté d'expression. Laissons les opinions abjectes, les opinions que l'on désapprouve s'exprimer librement et raffinons, perfectionnons les arguments que nous leur opposons. On arrivera ainsi à cet état de choses qui est d'ailleurs vanté dans le journal allemand, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui avait consacré tout un dossier à cette question de l'interdiction du spectacle de Dieudonné en disant, mais au fond, la situation idéale, ce serait celle où les spectacles de Dieudonné seraient gratuits. Évidemment pas interdit et personne n'irait.
Il n'y a pas de réponse libérale, réellement libérale au sens de ce qu'on appelle ultra-libérale à ce problème-là. C'est-à-dire qu'on pourrait dire aussi qu'il y aurait une dissolution progressive de l'idéologie de Dieudonné dans l'Internet et dans le grand écoute collecteur que représente, n'est-ce pas, la libération totale de la parole odieuse sur Internet. Il est vrai qu'il y a là un véritable souci. Mais, encore une fois, il y a des personnes qui se sentent lésées. Elles portent plainte. C'est par le biais de la plainte qu'on peut arriver à régler les problèmes.
Absolument.
Nous ne pouvons plus, aujourd'hui, passer... Nous sommes un État, justement, qui a accepté l'idée du centralisme du droit et de la loi parce que nous avions des grands principes que nous respections et qui protégeaient le citoyen contre les débordements et les intrusions excessives de cette loi. Ça avait été très bien dit par François Schoendernagor dans le rapport de 1991 du Conseil d'État. Et par exemple, l'espace public et l'espace privé, pourquoi est-ce qu'on les sépare? Parce qu'il y a un domaine et un territoire dans lequel l'État ne doit pas intervenir. Or, il intervient, nous le voyons bien, de plus en plus, avec la complicité des citoyens et par l'effet d'une demande sociale qui joue de la surenchère précisément entre nos différentes identités que un mathématicien qualifie de remarquable, mais que je trouve je qualifie de dangereuse.
Bon, nous pouvons en rester là. Merci à Alain Charaslama pour cet entretien. Merci à François Connat qui a réalisé cette émission et à Philippe Palares qui était à la technique. « La semaine prochaine, nous parlerons d'un tout autre sujet, puisqu'il s'agit d'éthica érotica, de l'importation dans la relation amoureuse d'un savoir-faire érotique qui était jusqu'à présent le privilège de l'activité de prostitution. Du moins, c'est la thèse de Patrick Farreau que je recevrai à cette occasion. Juste à l'instant, n'oubliez pas Marie Richeux pour Pas la peine de crier. Et quant à moi, j'espère vous retrouver jeudi prochain. Très bonne semaine à tous.